Alors, pourquoi j'ai voulu apporter la prédication avant la Sainte Cène? Il y a quelques semaines de cela, un mardi soir, nous étions en train de prier. À 19h30, nous étions en train de prier. Et je participais à la prière de ces bien-aimés, en disant bien sûr Amen, parce que je trouvais qu'elles étaient à propos. Ces prières se résumaient à ce verset de la Bible, « Seigneur, donne-nous, redonne-nous le feu du premier amour. » C'est une prière qui plaît à Dieu. Et les jours ont passé et j'ai questionné le Seigneur. J'ai questionné le Seigneur. Car nous avons fait des expériences particulières le jour où nous nous sommes convertis. Vous êtes à même de le dire. Les premières semaines, les premiers mois de notre conversion, nous avons vécu quelque chose de particulier. C'est vrai ou c'est pas vrai? Nous avons fait de belles expériences et petit à petit, ces choses se sont atténuées. Et j'ai questionné le Seigneur et je crois qu'il m'a vraiment donné la réponse. On va lire quelques versets pour comprendre comment les choses doivent évoluer. Premièrement, dans le psaume 90, il y a une prière qui résume la prédication. Psaume 90, verset 17, c'est une prière de Moïse. La fin de ce psaume vraiment explique ce que l'on va partager ce matin. Psaume 90, verset 17, « Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. » Je répète, « Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. » Dans le psaume 32, c'est la même chose. Ce n'est pas le même homme, c'est tout. Dans le psaume 33, pardon. Psaume 33, verset 22, on ne va pas faire beaucoup de lecture ce matin. « Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. » Amen. « Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. » Dans l'Apocalypse, au chapitre 2, nous allons lire le courrier que le Seigneur adresse à cette église d'Éphèse, lorsqu'il parle justement de cet abandon du premier amour. Une église qui va bien, c'est une église dont le pasteur devait être content, j'en suis convaincu. Apocalypse chapitre 2, on voit cette lettre écrite à l'église, à l'ange de l'église d'Éphèse. « Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es pas lassé. » Sérieusement, c'est une bonne église ça? Oui ou non? Personne ne pourrait dire « Non, je ne voudrais pas être dans cette église. » Franchement, un chrétien sérieux voudrait être dans cette église. Et pourtant, vous voyez, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu aies les œuvres des Nicolaïtes. » Les Nicolaïtes, pour faire court, c'était des chrétiens qui étaient chrétiens et qui en même temps vivaient dans le péché. Ils en étaient arrivés à trouver ce compromis. On peut être chrétien, chrétien c'est l'esprit, après la chair c'est pas grave, si on vit dans la licence, si on vit dans le péché, c'est pas grave, Dieu le voit, Dieu nous connaît, le corps, c'est pas grave. La débauche c'est pour le corps, mais après l'esprit peut être spirituel. C'est ça l'œuvre des Nicolaïtes, je le résume un peu, mais c'est ça. Œuvre que je hais aussi, vous voyez ce que Dieu pense des chrétiens qui vivent de cette façon-là, œuvre que je hais aussi, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. C'est une bonne église. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est une bonne église, mais voilà, il s'est passé quelque chose. Elle a abandonné le premier amour. Et j'ai questionné le Seigneur, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi nous aussi, moi le premier, nous n'avons pas ce premier amour, ce feu que nous avions au début. Vous êtes d'accord avec moi? Peut-être que plusieurs ne sont pas concernés, tant mieux. Mais même si ça va bien avec Dieu, il n'empêche que l'on peut retrouver encore plus de ferveur pour le Seigneur. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Je pense qu'il y a beaucoup d'explications. Mais la pensée qui m'a envahi l'esprit depuis que j'ai prié le Seigneur de m'éclairer, c'est que nous avons abandonné ou perdu ce premier amour pour la simple et unique raison que nous nous sommes amenés à dépendre trop de nous-mêmes. Lorsque nous nous convertissons, nous n'avons rien, rien du tout. Nous avons juste une mesure de foi que nous commençons à faire valoir, mais nous savons que tout dépend de la grâce de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? On le sait. La Bible, par exemple, nous exhorte à faire des efforts. Dès que l'on se convertit, on exhorte les chrétiens à faire des efforts. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que c'est biblique de faire des efforts? Mais le danger, c'est qu'après, nous mettions notre confiance dans les efforts que nous faisons. Vous voyez, je vous parlais du jeûne tout à l'heure, mais ça serait stupide de dire on va jeûner une semaine, Dieu va nous exaucer. Je vous dis non, ça sera par grâce qu'on sera exaucé, que par grâce. Mais il empêche que conjuguer l'obéissance, la sainteté, le jeûne et la prière avec cette grâce, ça va donner. Il ne faut pas penser qu'il y a une méthode. La seule méthode, c'est la grâce de Dieu. La Bible nous exhorte à prier, oui ou non? Est-ce que la Bible nous exhorte à prier? Mais quel n'est pas le danger de nous confier dans nos prières? Moi, je prie 2 heures par jour, ouais. Et toi? Vous voyez, c'est pas comme ça que Dieu va nous faire grâce. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Moi, je prie. Mes frères et sœurs, que Dieu nous accorde la grâce de veiller et de prier jusqu'à la fin. Mais c'est par grâce que Dieu exauce nos prières. Uniquement. La Bible nous exhorte à mettre notre foi en Dieu. La Bible dit, mais il vous sera fait selon notre foi. Mais vous pouvez me dire, à moi, ce que c'est la foi sans la grâce de Dieu? Qu'est-ce que c'est la foi sans la grâce de Dieu? Ça ne sert à rien. Si j'avais la foi, vous le savez, hein, même sans l'amour déjà, même sans l'amour, ne parlons pas de grâce. Si j'avais la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. La Bible nous exhorte à nous confier en Dieu. Mais ne nous confions pas dans notre foi, ne nous confions pas dans nos efforts, ne nous confions pas dans le jeûne, ne nous confions pas dans la prière. Confions-nous en Dieu. Et en Dieu seul. La Bible nous exhorte à faire des œuvres. L'église de Laodicée est une église qui s'est faite piéger par les œuvres. Peut-être que les Éphésiens, dans l'Apocalypse, se sont fait également piéger par des œuvres. Parce que Dieu dit, mais je sais, tout ce que tu fais, c'est formidable. Dieu pouvait dire à cette église, mais franchement, tout ce que vous faites, mais ça me réjouit, mais voilà. Est-ce que ce n'était pas des chrétiens qui, petit à petit, se reposaient sur leurs œuvres? On fait des œuvres, donc ça va. Mais Dieu, lui, il y a quelque chose qui l'intéresse. C'est qu'on l'aime de tout notre cœur. Ce qu'on fait, c'est bien. Vous faites quelque chose dans l'église, c'est bien. Quelque chose que l'on voit, c'est bien. Vous faites des choses qu'on ne voit pas, c'est entre vous et Dieu, c'est très bien. Mais ce que Dieu veut, c'est le premier amour. Vous vous rappelez cette question de Jésus un jour dans les évangiles? Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Qu'ai-je à désirer? S'il est déjà allumé, ça veut dire que s'il y a un feu qui brûle dans l'église, s'il y a un feu qui brûle dans notre cœur, le Seigneur il désire rien de plus. Comment ça? Le Seigneur désire rien? Eh bien oui, parce qu'avec un cœur qui brûle, il peut tout faire. Il peut faire sa volonté. Alors il y a un verset qui m'a interpellé justement dans ce moment où je priais, c'est dans les Galates. Les Galates également se sont fait piéger par cette affaire d'œuvre. Il faut le lire car il nous éclaire sur tout ce que je suis en train de vous expliquer. Les Galates s'étaient tournés vers Dieu et des enseignants, des faux docteurs, des faux pasteurs bien sûr, les ramenaient à la loi. Et vous allez voir ce que Dieu en pense. Ils rajoutaient à la grâce les œuvres de la loi. Et c'est ce qui peut nous arriver à nous, ou pas la loi de l'Ancien Testament, mais ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Galates 5, qu'est-ce que Paul dit? C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Regardez le verset 4. Rappelez-vous de ce verset. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Est-ce que vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? L'apôtre Paul dit aux chrétiens de Galatie qui veulent revenir, en plus de la grâce, à faire des œuvres, pour dire, voilà, on va mériter encore plus, on obtiendra davantage, on va faire mieux, on va mettre en plus la loi à la grâce. Le Seigneur dit, vous êtes déchus de la grâce. Est-ce que vous vous rendez compte le danger dans lequel on peut tomber si on veut vivre autrement que par la grâce de Dieu? Est-ce que c'est écrit dans la Bible, l'Éternel désire vous faire grâce? Oui, c'est écrit dans le prophète Ésaïe. Dieu désire vous faire grâce. Et il dit, il te fera grâce quand tu crieras. Quand il parle aux Corinthiens, il dit, mais on peut le lire ce verset parce qu'il est important, regardez. 2 Corinthiens 8, 7 à 9. Ce sont des versets que quand on les met ensemble, on voit vraiment le piège dans lequel on peut tomber. 2 Corinthiens chapitre 8, 2 Corinthiens chapitre 8, versets 7 à 9. Il parle des chrétiens, regardez en quoi ils excellent. C'est quand même quelque chose. Ce sont des versets qui nous éclairent sur ce danger. De même que vous excellez en toute chose. C'est pas bien de dire ça des chrétiens ? Écoute, vous entendez mes frères et sœurs ? Est-ce que vous aimeriez que Dieu vous dise « vous excellez en toute chose » ? Bon. En foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver, par l'exemple du zèle des autres, la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Ces chrétiens-là ont pu recevoir la louange du Seigneur parce qu'ils connaissaient la grâce de Dieu. Alors je nous pose une question, mes frères et sœurs. Nous qui véritablement voulons avoir ce feu, il y a des chrétiens parmi nous, en fait, je ne vais pas poser la question, qui veulent retrouver le premier amour. Est-ce qu'il y en a des chrétiens qui disent, moi ça m'intéresse. Il y en a 7, 8, c'est bien. Non mais c'est bien, 7, c'est le chiffre parfait. Hein? J'espère que vous, si vous n'avez pas levé la main, ça veut pas dire que vous dites non. Je crois que ça tient à rien ça. Mais j'espère que dans votre cœur vous dites, oui, 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 je veux absolument plaire à Dieu. Alors, c'est vrai que je m'appuie sur mes jeûnes et prières, je m'appuie sur mes efforts, et ça, c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il faut découvrir la grâce de Dieu. C'est pour ça que des chrétiens se privent de la grâce de Dieu. Moi, je ne comprenais pas pourquoi l'apôtre Paul disait, mais que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Pourquoi des chrétiens se privent de la grâce de Dieu ? Eh bien, parce qu'ils dépendent de leur propre force. Nous le savons, qu'il y a des attitudes de cœur qui font que Dieu fait grâce. Par exemple, 1 Pierre 5, 5, ne le cherchez pas, Dieu fait grâce aux humbles. Oui ou non ? C'est vrai. Mais vous voyez, c'est pas parce que je prie, c'est pas parce que je jeûne, que je suis humble. C'est quelque chose qui se travaille. Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera grand dans le royaume des cieux. L'humilité, ça se réclame. On le voit, David le demandait. Enseigne-moi l'humilité. Dieu fait grâce aux humbles. Psaume 32, verset 10. Qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Mais voyez, quand moi j'ai commencé à réfléchir il y a longtemps de ça, lorsque des chrétiens étaient bien quand ils priaient. Ah, monsieur Gau, quand je fais mon culte, je suis bien. Mais après tout le reste de la journée, je suis triste. Et j'ai commencé à comprendre que les gens se confiaient plus dans leur piété que qu'en Dieu. Quand on est bien que quand on prie, c'est qu'on prend le risque de se confier dans sa prière. Il faut se confier en Dieu quand on prie, il faut se confier en Dieu quand on arrête de prier. Est-ce que vous faites confiance à Dieu quand vous priez ? J'espère. Est-ce que vous faites en confiance à Dieu quand vous fermez votre Bible, que vous prenez votre voiture ? Est-ce que vous continuez à faire confiance à Dieu ? C'est ça que je vous enseignais. Et il y a des chrétiens qui ne sont bien que quand ils prient. Je le sais, ils me l'ont dit. Et je l'ai même moi-même vécu. Voyez, on fait confiance à ses efforts. Celui qui se confie en l'Éternel, c'est pas celui qui se confie dans sa prière. Il se confie dans le Seigneur. Il est dans sa voiture, il est n'importe où. Il se confie dans le Seigneur. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce régneront dans la vie. Le Seigneur nous exhorte à recevoir l'abondance. La grâce règne, Romains 5, 21. La grâce règne par la justice. Voyez, quand Jésus dit « Cherchez le royaume de Dieu » et sa justice, qu'est-ce que c'est qui est juste ? Est-ce que je cherche la justice de Dieu ? Imaginons, je passe la semaine à jeûner. Mais après les moments de jeûne, je suis vulgaire, je suis léger. Est-ce que je pratique la justice ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ça qu'il faut faire attention. Alors, il y a des gens qui se sont fait piéger. Moi, je jeûne, moi, je prie. Après, on les entend raconter des blagues à deux balles. Mais c'est pas ça, la justice. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice. Voilà, il faut concilier ces choses, ces actes de piété, à une véritable sainteté. Et c'est là que la grâce se manifeste. Mais la grâce, elle est pour qui la grâce au fait? Est-ce qu'elle est pour les bons chrétiens? Elle n'est pas pour les bons chrétiens? Est-ce que la grâce, elle est pour les impies aussi? Est-ce qu'il y a un verset dans la Bible que Dieu justifie l'impie? Je pense aux gens qui sont en enfer. Souvent, j'y pense. Je ne sais pas si c'est bien. Je pense à ces gens qui se sont moqués de Dieu, alors que s'ils avaient lu la Bible, ils auraient vu que Dieu justifiait les impies. Et que même si nous ne méritons rien, Dieu est prêt à nous justifier. Beaucoup de gens pensent que Dieu ne justifie que les chrétiens qui sont bien, que les chrétiens qui, avant leur conversion, étaient presque chrétiens. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui s'imaginent que pour être sauvés, eh bien on est déjà presque chrétien. Non, Dieu justifie l'impie. C'est la preuve que Dieu fait grâce à tout le monde. Mes frères et sœurs, nous le savons que même si les choses ne vont pas, même si le péché abonde, oui, là, il y a un cœur ouvert, la grâce de Dieu, elle peut surabonder. Alors je voudrais que nous comprenions que la grâce de Dieu est surabondante. Quand Paul prie dans l'Épître aux Éphésiens, il dit « Mais je prie pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur, pour que vous connaissiez l'infinie richesse de sa grâce. » Est-ce que vous savez que la richesse de Dieu est infinie? Et que là, pendant ce moment de culte, pendant ce moment, Dieu peut vous guérir. Pendant la Sainte Cène, Dieu peut vous guérir. Nous avons parmi nous, je la vois, notre sœur Madame d'Anjou. Vous n'avez pas été guérie l'autre jour? Elle a été guérie? Vous voulez le dire? Vous voulez donner une minute? Vous voulez bien le dire? Une minute de femme, hein? 60 secondes. Voilà, écoutez bien. Dites ce qui s'est passé. Merci, madame. Merci, madame Anjou. Merci. Voilà. Merci. Le docteur nous renseignera. Merci, madame d'Anjou. C'est ça que nous voulons voir. C'est pas vrai? C'est la grâce de Dieu. Et je crois que cette sœur aime le Seigneur. Elle s'est levée et Dieu lui a fait grâce. Nous savons, je la connais, cette femme, elle a la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais la grâce de Dieu s'est manifestée. Dieu est riche à miséricorde. Et il veut que nous nous fortifions dans la grâce de Dieu. Et je voudrais terminer avec un exemple biblique. Car le plus important, c'est l'exemple biblique. Vous savez, toute sa vie, l'apôtre Paul a été en bénédiction. Vous êtes d'accord? Toute sa vie, il a été en bénédiction. Et Dieu, pourquoi? Parce que Dieu lui a enseigné le principe de la grâce. Vous savez que Paul a traversé une épreuve. On va la lire, cette épreuve. 2 Corinthiens, chapitre 12. Après avoir eu des visions, si on devait, sur une page, résumer la vie de l'apôtre Paul, c'est quelque chose à vous donner le tournique, réellement. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 5. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Si nous voulons retrouver le feu du premier amour, il faut que vous écoutiez la suite. Bien. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 5. Alors il parle de l'expérience qu'il a fait. « Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure de ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. » Retenez bien. « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi, tenez-vous bien, je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Paul prie, il a prié plusieurs fois, certainement d'une manière intense, peut-être comme Madame d'Anjou qui a même hurlé de douleur devant le Seigneur à cause de cette intensité de souffrance. Donc, il était handicapé par cet homme. Il ne pouvait pas servir Dieu comme il aurait voulu le servir. Et donc, à cause de cette écharde, à force, il a reçu une réponse. La réponse, nous venons de la lire. Dieu lui dit, non, je n'enlèverai pas cette écharde, mais je comblerai et je compenserai autrement. Dieu, écoutez bien, Dieu a préféré que l'apôtre Paul vive avec cette écharde. La volonté de Dieu était que Paul reste faible. Vous êtes d'accord? C'est pas l'image que le monde nous présente aujourd'hui. Il faut des guerriers, des grands vainqueurs. Et pourtant, je ne sais pas l'image que vous vous faites de l'apôtre Paul. Est-ce que Paul était un faible, en fait? Lisons un petit témoignage. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 23. Vous allez voir si c'est un... vous allez voir ce que ça fait, la faiblesse. Quand Dieu compense. 23. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore, pour les travaux, bien plus, pour par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'étais dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Tiens, en parlant de jeûnes, je ne pense pas que c'était des jeûnes volontaires. C'était des jeûnes parce qu'il n'avait rien à manger. Vous le comprenez bien. Il ne l'aurait pas dit sinon. Voilà le témoignage de l'apôtre Paul. Mes frères et sœurs, Dieu ne voulait pas que Paul... C'est le secret du premier amour. Dieu ne voulait pas que l'apôtre Paul dépende de ses propres forces, de sa propre intelligence. Est-ce qu'il était intelligent, l'apôtre Paul? Est-ce qu'il était sage? Oui, il le dit. Mais Dieu, voyant le potentiel de cet homme, parce qu'il n'a pas fait que ça, il a écrit la moitié du Nouveau Testament. C'est pas rien, non? C'est l'image, c'est pas l'image d'un faible. Mais à cause de cette écharde, il a compris qu'en étant faible, il dépendrait de la force du Seigneur. Et c'est ce que je crois vraiment que le Saint-Esprit m'a montré. Pour que nous retrouvions le premier amour, il ne faut dépendre que de la force du Seigneur, que de la puissance du Seigneur. C'est un principe. C'est un principe. Plus une chose est faible, plus elle a besoin de force. Plus un enfant est petit, plus il est bébé, plus il a besoin des bras de sa mère. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un principe biblique, c'est un principe logique. Plus une chose elle est faible, plus elle a besoin de la force de quelqu'un d'autre. Je me plais dans les faiblesses. Mes frères et sœurs, je crois que Dieu veut visiter notre ville de Toulouse. Je crois que Dieu veut nous faire du bien. Je crois à l'infinie richesse de sa grâce. Paul n'était pas faible et il se plaisait dans les faiblesses. Vous vous rendez compte? Parce qu'il savait que dans cette faiblesse-là, Dieu intervenait. Est-ce que nous voulons que Dieu intervienne? Bien sûr qu'il faut continuer à jeûner. Et bien sûr qu'il faut continuer à prier. Ça serait inquiétant de ne pas le faire. Bien sûr qu'il faut se confier en Dieu. Bien sûr qu'il faut avoir une foi qui augmente. Bien sûr qu'il faut, faire des efforts. Mais mes frères et sœurs, s'il n'y a pas la grâce, ça ne sert à rien. Ma grâce te suffit. Paul dépendait de la grâce de Dieu pour vivre notre journée, la fin de journée. On a besoin de la grâce de Dieu. Moi, je crois réellement qu'on peut faire de nouvelles expériences avec le Seigneur. Moi, hier, quand j'étais visité M. Boyer, je pensais vraiment à ça. J'ai dit, Seigneur, mais donne-moi de témoigner comme au début. Je veux témoigner. Des fois, je vous le dis, j'ai honte de le dire, mais des fois, j'ai un peu, pas honte, mais je ne sais pas si ça arrive à plusieurs. J'ai honte de vous le dire. Pardon. Mais des fois, je ne sais pas comment témoigner. Alors qu'au début, franchement, n'importe qui. Bon, peut-être que le zèle était à quand même à corriger. Mais justement, aujourd'hui qu'on a de la connaissance, est-ce qu'on ne peut pas équilibrer notre zèle? Dites-moi, sérieusement. Au début, on faisait n'importe quoi, vous vous rappelez? On faisait n'importe quoi, on nous a pris pour des barjots. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, vous riez parce que c'est vrai. Vous riez parce qu'on vous a regardé comme ça, celui-là, il est cinglé. Enfin, on ne l'a pas dit, mais ils l'ont pensé tellement fort que ça sortait du cerveau. On l'a entendu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. On a la connaissance, on sait comment parler à quelqu'un, on sait comment expliquer comment Dieu va faire grâce. Tiens, j'ai un exemple qui me vient à l'esprit. Le brigand qui était sur le bord du chemin, pas le brigand, le malheureux samaritain, le malheureux, comment il s'appelle ce gars? Non, c'est pas le samaritain c'est le bon. C'est... Le blessé sur le bord du chemin. Est-ce que le gars il s'est arrêté, le samaritain, il a dit, bon écoute, hein, moi je vais bien t'aider. Je t'aide, mais à une condition. Tu montes sur la monture, écoute, hein, t'es tout sale, t'es blessé, tu montes. Il ne pouvait pas le faire. La grâce de Dieu, c'est ça. C'est que plus on est faible, plus Dieu va le faire. Et le bon samaritain, il l'a pris, il l'a chargé, il l'a soigné de l'huile, du vin, il a donné un peu d'argent pour qu'il soit soigné. Vous comprenez le principe de la grâce? C'est ça. C'est que si vous êtes perdu, Dieu justifie l'impie. Si vous êtes blessé, Dieu va vous porter et va vous amener à l'autel. Si vous allez bien, Dieu va vous combler encore de son amour. Croissez dans la grâce. Et Paul nous enseigne ce secret. C'est un secret. Et que hier, quand j'ai témoigné, j'étais content de nouveau. Je témoigne régulièrement, mais on pourrait témoigner davantage, offrir davantage d'évangiles. Vous ne croyez pas, mes frères et sœurs? Le faire davantage, ce feu, moi je crois que ça plaira au Seigneur. Hier à la réunion d'hommes, j'ai dit aux frères, prenez un ou deux évangiles chacun. Ça coûte 25 centimes. Madame Penn m'a dit, si quelqu'un ne peut pas les acheter, prenez-en, prenez-les. L'Église pourvoira. Le conseil d'administration en achètera des milliers s'il faut. Et je sais qu'ils donneront leur accord. J'espère. Je sais que si. Je le sais. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas refuser l'Évangile. On ne peut pas refuser l'Évangile aux gens qui sont dans les ténèbres. C'est un principe, mes frères et sœurs. Plus on est faible, on doit dépendre de la force du Seigneur. Quand le Seigneur nous a appelés, je termine avec cette pensée. Quand le Seigneur nous a appelés, c'est quoi qui a intéressé Dieu quand il nous a appelés? Notre intelligence? C'est quand même... Quand vous vous êtes converti, qu'est-ce que c'est qui intéressait Dieu? Vos talents? Vous n'en aviez pas. Ou alors vous étiez très cachés. Qu'est-ce que c'est qui intéresse Dieu? Les talents, l'intelligence, la spiritualité? Il n'y avait pas de spiritualité, on venait juste de se convertir. Vous savez, il y a une question qui intéresse Dieu. Es-tu toujours disponible? Ce matin, voyez... Peut-être que vous dites à Dieu, oh Seigneur, donne-moi des talents, donne-moi des capacités. Les capacités, elles viennent de Dieu. Mais je nous pose la question, sommes-nous disponibles? Est-ce que nous sommes capables, si le Saint-Esprit nous réveille dans la nuit, eh bien, de nous lever pour prier, comme on le faisait au début? Est-ce que nous sommes capables de renoncer, peut-être à une distraction, pour inviter un frère qui ne va pas bien, l'inviter à manger et parler et l'encourager? Est-ce que nous sommes capables ce soir, plutôt que de regarder une émission à la télé, eh bien d'aller visiter un frère, une sœur qui est malade? Moi, je crois que quand on a le feu du premier amour, c'est pour ça que Dieu dit, j'ai quelque chose contre toi. Vous faites des choses formidables dans l'Église. Vous faites des choses merveilleuses. Et tout ça, ça me plaît. Et Dieu les loue pour ça. Mais voilà, il y a quelque chose qui va vous pénaliser. C'est que si vous perdez le premier amour, vous ne serez pas disponible. Vous ferez les choses pour les faire. Mais quand il y a le premier amour, on est toujours disponible. Il y a un besoin, on a envie d'y répondre. Pas tous, mais Dieu nous met à cœur certaines choses. Vous vous rappelez au début combien on voulait témoigner? Vous vous rappelez de ces choses? Combien on invitait des gens? On invitait des gens que pour témoigner. Que pour témoigner. On les invitait à manger, c'était notre obsession. On voulait qu'ils soient sauvés du jugement dernier. Est-ce que vous avez le fardeau des âmes? Si nous n'avons pas le fardeau des âmes, demandons-le. Mais mes frères et sœurs, je crois vraiment de tout mon cœur que si nous comprenons ce principe, que nous ne devons pas dépendre de ce que nous sommes, de ce que nous avons et des efforts que nous pouvons fournir, mais si nous disons tous les jours en nous levant, Seigneur, je dépendrai que de ta grâce. Je vais faire ce que j'ai à faire, je le ferai de tout mon cœur. Mais Seigneur, ta grâce me suffit. Vous le croyez que la grâce de Dieu vous suffit? Je ne sais pas à quoi Dieu va vous appeler. Je ne sais pas. Mais la grâce de Dieu suffira. Les jeunes, peut-être certaines sont appelées au ministère. Je l'espère. La grâce de Dieu vous suffira. Relisez l'histoire de l'apôtre Paul et vous verrez que tout ça, ça suffit. Oui, fermons nos yeux quelques instants. Vous êtes d'accord, mes frères et sœurs? Est-ce qu'il y en a, ne levez pas la main, monsieur, mais est-ce qu'il y en a qui sont d'accord pour dire « Je veux le feu du premier amour » Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord? Il y en a qui disent « Oh Seigneur, je veux le retrouver ». Vous ne le retrouverez que par une chose, que par la grâce de Dieu. On va prendre la Sainte Cène. Monsieur de Dieu, s'il vous plaît, vous pouvez choisir quelques frères. Nous restons recueillis. Frères et sœurs, louons-le. Répondons à cette prédication. Répondons soit dans le silence, soit à voix basse, soit en élevant la voix vers Dieu. Mais je voudrais prier pour vous, pour nous. Frères et sœurs, est-ce que vous voulez le premier amour? répondez au Seigneur Jésus. Jésus dit dans ce texte de l'Apocalypse que c'est une chute, puisqu'il dit « Souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi ». Où c'est qu'on a perdu le premier amour? Quand on s'est confié dans nos prières? Quand le monde a repris ses droits? C'est peut-être le monde qui vous a fait perdre le premier amour. C'est peut-être le travail, trop de travail, trop de travail, trop de travail. C'est peut-être les soucis, vous n'avez pas réussi à vous en débarrasser, à vous en décharger. Mes frères et sœurs, la grâce de Dieu est là ce matin. Et elle suffit pour nous délivrer, nous guérir, nous porter, nous sauver. Je m'adresse à ceux qui ne sont pas sauvés, aux jeunes, aux adultes qui ne sont pas encore convertis. Dieu justifie l'impie. C'est ça la grâce. Il ne justifie pas que les gens qui sont super bien. Dieu justifie les impies. Par grâce. On l'a chanté tout à l'heure. Le premier chant, c'est ça. Par ta grâce, nous voici. Oui, c'est par grâce. Alors, mes frères bien-aimés, mes sœurs bien-aimées, les jeunes, les anciens, sa grâce est là. Saisissons-la par la foi. Et comme Madame d'Anjou a saisi la guérison, saisissez la guérison, saisissez la victoire. Dites, Seigneur, je vais redépendre de ta grâce pendant que le pain et le vin vont passer. Saisissez cette bénédiction. Alléluia. Notre Père, notre Dieu, nous croyons que tu parles. Nous croyons que tu nous as laissé ta parole pour nous montrer comment surmonter le mal par le bien. Comment recevoir cette grâce infinie? Tu vois mes bien-aimés, tu nous vois Seigneur, tu connais l'Église, tu vois là où nous nous sommes trompés, là où nous avons failli, dans quel domaine nous nous sommes éloignés. Mais je crois Seigneur de tout mon cœur que ta grâce est là et que tu veux compenser par ta puissance. Quelles que soient les épreuves, les situations que nous traverserons, tu nous le révèles au travers de l'apôtre Paul, qui se plaisait dans ses faiblesses, parce que ta puissance pourvoyait, abondait. Seigneur, merci de nous avoir enseigné ce principe, mais nous voulons le vivre et en dépendre, afin qu'aucun chrétien ne soit blasé, malheureux, misérable. Seigneur, que ta volonté soit faite, et que ta grâce nous envahisse pendant ce moment de sainte scène, que ta grâce nous envahisse. Merci Jésus. Amen.